Agro j'écoute, ça commence maintenant.
L'agroécologie, on m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est.
McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène. On va en neutraliser les effets, on va en neutraliser les dégâts.
Agro j'écoute. L'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides.
Il faut réapprendre, il faut oublier pour apprendre autre chose, parce qu'il y a des fois, là, on se trompe.
Cide, ça veut dire que ça tue.
Agro j'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire.
Tous les produits en cidre devraient être interdits.
En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
Chaque fois que je rends visite à mon père, c'est la même histoire. J'ai beau lui expliquer, lui réexpliquer, il n'y a pas moyen qu'on se mette d'accord. Et parfois, ma petite sœur rebelle s'en mêle, alors là, vraiment, ça peut partir en cacahuète. Mais la dernière fois, mon père a vraiment pété les plombs.
Mais papa, franchement, c'est facile, c'est dans la jaune.
Mais non, ni dans la jaune, ni même dans la bleue.
Mais bordel, mais dites-moi où je le mets ce pot de yaourt maintenant.
Et une fois le pot dans la poubelle, la tension retombe d'un coup. Le calme revient, les déchets et les débats restent sous le couvercle des poubelles colorées. Et nous repartons, apaisés avec le sentiment du devoir accompli. Et on a bien raison, non? On a fait notre part du boulot, et la formidable industrie du recyclage va prendre le relais pour faire revivre notre emballage encore et encore. La preuve.
Des années que Monsieur Papillon trie ses emballages en plastique. Mais ce matin, son voisin à quoi bon l'interrompt. C'est bien beau de trier bouteilles et flacons, mais après, où ça va? Dans les centres de tri et de recyclage, pardi. Tout le monde le sait, répond Papillon. Pour être séparé, lavé, broyé, transformé, chauffé, soufflé, pour créer de nouveaux emballages. Vous voulez des preuves? Suivez-moi sur ecoemballage.fr.
Mais c'est merveilleux! Grâce au recyclage, les emballages que je trie sont transformés en nouveaux emballages et ne finissent pas dans des décharges ou dans la nature. C'est un sacré soulagement pour ma conscience d'écolo, ça. Plus besoin de se sentir coupable en achetant du jetable, je peux continuer à consommer l'esprit tranquille. Mais est-ce que ce serait pas un peu trop beau, quand même? Est-ce que l'industrie du recyclage, elle est vraiment aussi vertueuse qu'elle voudrait nous faire croire? Certaines associations ne sont pas tout à fait de cet avis et nous invitent à prendre garde aux beaux discours de l'industrie du recyclage. Pour Flore Berlingen, directrice de l'association Zero Waste France, le recyclage serait même devenu un grand enfumage, une instrumentalisation de l'économie circulaire pour promouvoir le tout jetable. Bienvenue sur Agro J'écoute, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière émission d'une superbe saison animée par les élèves de l'école d'ingénieurs de Purpan. Aujourd'hui, autour de la table, pour explorer les vertus et les vices du recyclage, nous accueillons une équipe d'étudiants passionnés et engagés, désireux de faire évoluer notre société vers un mode de vie plus durable. Alors avec nous, il y a Julie.
Bonjour.
Amandine.
Bonjour.
Constance.
Bonjour.
Et moi-même, Benjamin. Le recyclage, il est trop souvent très simplifié et présenté comme un outil 100% positif. Pourtant, selon le contexte, les matériaux et les utilisations, il est loin d'être toujours vertueux. Restez avec nous et ensemble, on va faire le tri. Pour commencer, on va essayer de cerner les acteurs responsables du recyclage en France. On entend souvent que si la totalité des déchets sont recyclés, en fait, c'est la faute du consommateur qui trie mal ses déchets. Est-ce que c'est vrai ça, Amandine?
Eh bien, pas tout à fait, Benjamin. Bien sûr, l'implication des citoyens est importante. Une petite partie des matières recyclables non triées peuvent être récupérées dans les déchets ménagers, mais pour un recyclage efficace, il est nécessaire que le tri soit fait en amont par les consommateurs eux-mêmes. Environ 9 Français sur 10 disent trier occasionnellement leurs déchets, mais on se rend compte en réalité que seulement 1 Français sur 2 trie systématiquement ses emballages. 40% de ce que l'on trouve dans nos poubelles non recyclables pourrait être mis dans le bac de tri. C'est vraiment beaucoup.
Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. Alors si je comprends bien, tout le monde est sensible à la question du recyclage, mais seulement une partie des gens font l'effort vraiment à chaque fois de faire leur tri. Mais bon, j'avoue que je les comprends un peu. Moi, personnellement, j'essaie de faire l'effort, mais j'ai l'impression qu'il faudrait être un spécialiste pour vraiment savoir à chaque fois quoi mettre dans quel bac. Par exemple, mon pot de yaourt, ma barquette en plastique, je peux les mettre ou je peux pas les mettre? Le problème, ce serait pas aussi un peu la responsabilité des communautés de communes qui, en fait, rendent le tri trop complexe pour que les utilisateurs le fassent?
Effectivement, les régions et les communautés de communes, elles ont une part de responsabilité. Certains emballages sont pris en charge par des centres de tri, d'autres pas. Chez moi, en Alsace, tout ce qui est finalement emballage plastique, sauf le film alimentaire, on le met dans la poubelle de tri. Alors qu'à Toulouse, les pots de yaourt, le sachet de gruyère, les barquettes en plastique, tout ça, c'est pas pris en charge. Les seuls emballages plastiques qu'on trie, c'est les bouteilles en PET, en gros, les bouteilles en plastique. Pour autant, les municipalités, elles doivent composer avec les filières qui sont présentes sur leur territoire. Pour reprendre l'exemple du plastique, si certaines résines ne sont pas collectées, c'est aussi parce que certaines filières de recyclage ne sont pas présentes sur leur territoire.
Mais du coup, alors, est-ce que ce ne serait pas la faute des filières de recyclage si tous les déchets y sont recyclés ?
Eh bien non, pas exactement, Benjamin. En fait, la responsabilité du recyclage repose sur l'ensemble des acteurs dont nous venons de parler. Il y a les citoyens, mais aussi les intercommunalités, les entreprises de recyclage et surtout les producteurs d'emballages. En fait, sous le terme plastique, on regroupe un grand nombre de résines de synthèse différentes qui nécessiteraient chacune des filières de recyclage spécialisées. Du coup, certaines matières plastiques, elles sont mises sur le marché alors qu'elles n'ont même pas de procédés de recyclage. Pour te donner une idée, d'après Citeo, en France, 2 emballages plastiques sur 4 ne sont pas recyclés. Parmi eux, un n'est pas pris en charge car son recyclage n'est pas rentable, et le dernier est mis sur le marché par les entreprises alors qu'il n'existe même pas de procédés de recyclage pour eux. Et là, on parle que des types de matières, pas des volumes.
D'accord, merci Julie, c'est plus clair. Et alors, tous ces acteurs, j'imagine qu'ils doivent aussi fonctionner avec les décisions qui sont prises au niveau national et au niveau européen.
Exactement. Et il y a un autre type d'acteur très important qu'il te manque pour comprendre le fonctionnement du recyclage en France. Ce sont les entreprises privées spécialisées dans le recyclage. Laisse-moi te faire un petit cours d'histoire. En 1992, la France a mis en place les premières filières réglementées qui appliquent le principe « responsabilité élargie des producteurs ». C'est un principe qui est inscrit dans la loi depuis 1975 et qu'on appelle aussi le principe pollueur-payeur. Ça signifie que les entreprises deviennent responsables de la fin de vie des objets qu'elles produisent. Bon nombre d'entreprises se sont alors organisées pour créer des entreprises chargées de cette mission. C'est ainsi que sont nées des entreprises telles que Paprec ou encore Citeo, anciennement appelée Eco-Emballage, qui sont actuellement les leaders français du recyclage des emballages ménagers.
Et alors, par qui elles sont financées ces entreprises ?
Ce sont les entreprises adhérentes elles-mêmes qui financent son fonctionnement. En fait, chaque entreprise adhérente doit reverser une redevance qui dépend du volume d'emballage produit et du matériau utilisé. Est-ce qu'il est recyclable ? Et quel est son impact environnemental ? C'est ce qu'on appelle l'éco-redevance.
D'accord, donc les entreprises qui produisent des déchets paient une redevance à ces entreprises spécialisées en fonction de ce qu'elles font plus ou moins polluant. Mais alors concrètement, avec cet argent, elles font quoi ces entreprises spécialisées ?
Officiellement, elles sont là pour financer le retraitement des déchets produits par les entreprises adhérentes et limiter un maximum l'impact de ces entreprises sur l'environnement. Pour ça, elles sont censées faire de la recherche et développer l'éco-conception, c'est-à-dire réduire le volume des emballages et, si cela n'est pas possible, trouver des matériaux alternatifs et plus durables, mais aussi développer les techniques de recyclage. Elles ont un rôle d'accompagnement et de conseil auprès des collectivités locales pour développer la collecte et le tri sélectif. Et enfin, elles ont aussi un rôle de communication auprès du grand public pour pousser les citoyens à trier. Mais dans les faits, l'efficacité de ce type de structure est très critiquée. Certains les accusent d'être trop proches des entreprises et d'avoir des actions qui ressemblent à du lobbying pour emballage. C'est vrai que, quand on y réfléchit, elles n'ont pas vraiment intérêt à réduire le volume des emballages produits. C'est d'ailleurs un des arguments de l'association Zero Waste.
Eh bien, merci beaucoup pour ces explications. Alors rapidement, pour ceux qui sont un peu perdus, Zero Waste France, on en reparlera plus tard, mais c'est une association dont le but est de promouvoir le zéro déchet et la transition écologique globale. Alors, maintenant qu'on a notre décor et les acteurs, je vous propose qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Si vous nous rejoignez maintenant, vous arrivez au bon moment, vous écoutez Agro J'écoute, l'émission animée par les élèves de l'école d'ingénieurs de Purpan, et nous nous apprêtions à découvrir la face cachée de l'industrie du recyclage. Restez à l'écoute, on se met dans l'ambiance.
J'aime le plastique, vive le plastique.
Et alors vous sauvez la planète ensemble?
Bah oui, lui il se boit des canettes et moi je le transforme en bicyclette. Voilà, c'est tout.
Bravo, très fort.
En recyclant avec Ecosystem, vous êtes sûr d'offrir une nouvelle vie à votre appareil électrique?
Alors, on vient d'entendre une petite compile de supports de communication produite par Citeo, qui, on le rappelle, l'un des leaders français du recyclage des emballages ménagers. Alors, Constance, j'ai vu que ça te faisait un petit peu sourire. Est-ce que tu peux nous livrer tes impressions à chaud ?
Volontiers. Là, on est en plein cœur du problème. Les organismes tels que Citeo, ils livrent une communication qui simplifie énormément et positive à 100% le recyclage. Le problème, c'est qu'ils donnent l'illusion d'un recyclage à l'infini. On s'imagine la canette en aluminium refondue en une nouvelle canette d'aluminium ou, comme dans l'extrait, en un vélo. Sauf que dans la réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Le recyclage à l'infini est un mythe. En France, une canette recyclée ne donnera jamais naissance à une nouvelle canette et pas plus qu'à un vélo. Certains reprochent à ces campagnes de manquer d'objectivité et de ne pas encourager les entreprises à se remettre en question.
Ah bon, mais alors, si ma canette, elle ne redonne pas une canette ou bien un vélo, mais qu'est-ce qu'elle devient ?
En fait, pour recycler, on doit d'abord détruire le produit d'origine et lors de ces étapes qui sont nécessaires à son traitement, il y a toujours des pertes. D'autre part, les matériaux, ils sont rarement purs. Par exemple, les canettes, elles sont couvertes d'un vernis et elles sont tapissées à l'intérieur d'une très fine couche de plastique. Ces éléments supportent mal les traitements subis et à la fin du cycle de recyclage, le matériau obtenu est, sauf rare exception, de moins bonne qualité que la matière première. Dans le cas de notre canette, après le recyclage, l'aluminium sera de trop mauvaise qualité pour refaire une canette ou un vélo et donc sera principalement utilisé dans la fabrication de pièces automobiles. Ce n'est donc pas du recyclage mais du décyclage. On transforme un produit en quelque chose d'autre de moins bonne qualité, alors que le recyclage permet de recréer un objet d'aussi bonne qualité.
Est-ce que malgré tout, ce ne serait pas un moindre mal ? Même si le recyclage n'est pas aussi parfait et que les matériaux réutilisés ils finissent quand même pas à la poubelle. Alors, on manipule certes un petit peu la réalité, mais on encourage quand même le tri. Donc, globalement, pour l'environnement, ça reste positif, non ?
Eh bien non, pas vraiment. Parce que ce genre de discours, il a un impact psychologique non négligeable sur le consommateur. En fait, il dédramatise l'importance des déchets et peut faire croire à quelqu'un qui n'est pas très bien informé que si un déchet est recyclable, alors son impact environnemental est nul. Comme si le recyclage était parfait, en fait. Du coup, un discours comme celui-ci, ça déculpabilise le consommateur et ça l'encourage même à consommer plus. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est ce que veut dire Flore Berlingen dans son livre quand elle parle d'une instrumentalisation du recyclage comme alibi du jetable.
Mais alors là, on parle des entreprises spécialisées dans le recyclage. Les entreprises qui produisent ces déchets, elles sont où, elles, dans tout ça ?
Tu as raison de le rappeler. En fait, les associations, comme Zero Waste, elles accusent aussi les entreprises productrices des produits jetables de faire du greenwashing et d'utiliser l'argument du recyclage pour promouvoir leur marque. À travers les publicités, elles verdissent leur image et elles incitent les consommateurs à acheter encore davantage et davantage de produits.
Bah effectivement, c'est très problématique, puisque j'imagine que ce qu'elles poussent à acheter, c'est des produits jetables. On pourrait peut-être se tourner vers d'autres matériaux qui sont mieux recyclables, comme par exemple, il me semble, le verre se recycle très très bien. Et là, on n'a pas vraiment d'impact sur l'environnement.
Alors certes, on vient d'entendre Vive le Vent jouer avec des bacs de récupération de verre, mais ce matériau n'est pas magique pour autant. Pour recycler, il faut faire toute une série d'opérations qui consistent à nettoyer, détruire et refabriquer un nouvel objet. Ces étapes n'ont pas un impact neutre sur l'environnement, car elle nécessite l'utilisation de ressources énergétiques et d'eau vraiment très importantes.
Ah oui, d'accord. Donc même si le matériau est bien réutilisé, il a quand même un impact environnemental parce qu'on utilise beaucoup d'énergie. Eh bien, effectivement, le problème du recyclage est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, si je résume pour nos auditeurs, les responsabilités sont portées par un grand nombre d'acteurs. Il y a les citoyens, les communautés de communes, les régions, les filières de recyclage. Puis il y a aussi les entreprises qui produisent ces déchets et celles qui sont spécialisées dans leur recyclage. Et alors, toutes doivent jouer le jeu pour que le recyclage fonctionne. Les déchets, eux aussi, comportent leur lot de complications. Déjà, à la base, ils ne sont pas tous triés. Quand ils sont triés, ils ne sont pas tous recyclables. Certains le sont, d'autres non. Et même quand ils sont recyclables, ils ne sont pas tous recyclés, parce que le recyclage de certains matériaux est trop coûteux. Et quand les matériaux sont recyclables et recyclés, il faut aussi en prendre en compte que le recyclage reste coûteux en énergie et bien moins efficace que ce qu'on voudrait nous faire croire. Alors, pourquoi on s'embête encore à trier ? Si le recyclage est si mauvais, est-ce que le recyclage ne serait pas tout simplement acheter la poubelle ? Eh bien non, le recyclage fait bien partie de la solution à nos problèmes de déchets, et je dis bien fait partie de la solution, c'est important. Les entreprises spécialisées dans le recyclage nous vendent le recyclage comme étant la solution. Mais en réalité, si on ne se concentre que sur le recyclage, on ne réduit pas la production de produits jetables. Alors que c'est justement ça le vrai problème, réduire le volume de déchets. On pourrait par exemple avoir des produits qui sont destinés à vivre plus longtemps et pas être jetés immédiatement. Pour découvrir tout ça, restez avec nous, on se retrouve juste après une courte pause musicale.
grillage sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Que je jette du verre, du carton, je me plante toujours de bidon. Est-ce que je peux mettre ma boîte de crème fraîche? Faudrait que je me fasse des antisèches. Qu'est-ce que je peux mettre ou pas? Pourquoi tout se recycle pas? Moi pourtant je suis volontaire, mais là franchement je m'y perds. Est-ce qu'on pourrait pas simplifier tout le triage de nos déchets? Ma voisine me fait la morale parce que ma coque est en plastique. Suffit pas d'une coque en algue pour rendre l'iPhone écologique. On veut nous faire croire qu'on sauve la terre avec du bambou chinois pour faire nos couverts. Ne vous laissez donc pas berner par les technologies gadgets. Elles ne pourront pas nous sauver si l'on achète et puis l'on jette. Je m'en fous de pas être consensuel. Moi je suis le rebelle de la poubelle. Mon voisin papillon, tout le monde le prend pour un champion. Sa poubelle jaune est pleine à fond de bouteilles, canettes et flacons. Moi je peux passer pas pour un tel crack, alors que j'achète toujours en vrac. Pourtant pas sûr qu'être écolo ce soit d'acheter des bouteilles d'eau. Des flacons plastiques à gogo, c'est vraiment un truc de bobo. Tant qu'il nous pousse à consommer, le recyclage peut la boucler. Les pubs de la radio, de la télé nous promettent l'immortalité. Ils font croire que tous nos déchets infiniment sont recyclés. Sauf que moi je suis un métallurgiste. C'est une grosse blague, ce sont les artistes. Jamais la lune qui est recyclée reste de première qualité. Jamais une de vos canettes deviendra une bicyclette. Le recyclage c'est bien pratique, mais c'est pas pour autant magique.
Nous venons d'entendre Au triage sans prétention, une superbe création du rebelle de la poubelle sur la musique de La mauvaise réputation de Brassens, réarrangée par Cine Semilia. Nous sommes toujours sur Agro J'écoute, l'émission réalisée par les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan sur Campus FM. Vous êtes en compagnie de Constance, Amandine, Julie et moi-même Benjamin. Et aujourd'hui, nous faisons le tri dans les idées reçues sur le recyclage. En première partie d'émission, nous avons vu que le recyclage n'était pas aussi vert qu'on peut le croire. Son impact sur l'environnement est loin d'être neutre. Son efficacité est remise en cause par le manque d'uniformité des filières de recyclage, mais aussi à cause des matériaux utilisés par les entreprises. Si bien que le problème des déchets n'est pas vraiment solutionné. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que les déchets nous posent autant de problèmes aujourd'hui ? Amandine, tu as une petite idée ?
C'est assez simple. Notre modèle économique est basé sur un système que l'on peut caractériser de linéaire. On extrait des matières premières, on fabrique tout un tas d'objets qu'on consomme avant de les jeter. C'est de là d'où viennent nos déchets.
Mais pourtant, pendant des années, on utilisait ce système sans que ça pose vraiment de problème. Et ça avait l'air bien plus simple. Pourquoi aujourd'hui, c'est devenu aussi problématique ?
C'est parce que ce modèle linéaire, comme l'a expliqué Amandine, il est basé sur des ressources qui sont finies, non renouvelables. Donc, il en existe un stock limité. Le pétrole, par exemple. On estime que d'ici une cinquantaine d'années, nous pourrions atteindre un pic et après lui, un déclin de l'extraction dû à un épuisement progressif des réserves. 50 ans, c'est demain. Et c'est le cas pour beaucoup de ressources sur lesquelles repose notre modèle linéaire. Et puis, on voit bien aujourd'hui l'impact désastreux de ce modèle économique sur l'environnement. Prenons l'exemple des océans. On estime que d'ici 2050, le poids de plastique dans les océans sera équivalent à celui de toute la faune marine qui y vit. Tu te rends compte ? C'est énorme ! Et c'est sans parler de l'impact social.
Donc si je comprends bien, le modèle économique linéaire d'aujourd'hui, il a des limites et on commence déjà à les atteindre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout repenser et revoir notre modèle économique ?
C'est effectivement le point de vue que partagent de nombreux économistes, scientifiques, acteurs privés comme publics. Beaucoup pensent qu'il faudrait repasser à une économie dite circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est un modèle à l'opposé du modèle linéaire. Il émerge chez les économistes depuis les années 1970. Mais en France, il est défini officiellement seulement en 2015, c'est très récent, avec la loi Transition énergétique pour la croissance verte.
Ça me dit quelque chose, ça, l'économie circulaire. C'est pas le fait de concevoir des objets avec des matériaux qui sont plus facilement recyclables ?
Eh bien, pas tout à fait. L'économie circulaire est bien plus globale que ça, tellement que c'est sa faiblesse. Beaucoup ne la comprennent pas, d'autres la détournent pour l'utiliser à des fins de greenwashing, et j'en passe.
Bon alors, arrêtons ton tour du pot, expliquez-moi clairement c'est quoi l'économie circulaire.
Alors on va se baser sur la définition de l'Institut National de l'Économie Circulaire, qui regroupe une multitude d'acteurs et qui a une vision assez complète de ce modèle économique. Donc avec l'économie circulaire, on cherche à atteindre une gestion optimisée des ressources pour continuer à créer de la valeur tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Ça implique de revoir pas mal de choses. Il nous faut de nouveaux modes de conception des produits, mais aussi de nouveaux modes de production et des nouveaux modes de consommation.
D'accord, bah là je comprends, mais tu me parles de ressources, les déchets ils sont où dans tout ça?
Ils sont plus considérés comme des déchets, mais comme des ressources. L'économie circulaire, c'est une boucle en fait.
Attends, là tu me fais un peu des nœuds au cerveau avec ces histoires de boucles, explique-moi plus clairement.
Laisse-moi t'expliquer. Il y a deux boucles, celle des aliments et des matières biologiques et la boucle des produits manufacturés. En gros, les objets qui sont faits à partir de ressources non renouvelables, comme le plastique, par exemple. Dans les deux cas, les produits passent par plusieurs étapes, plusieurs boucles. La réparation, la mutualisation et même le réusinage. Et ce, autant de fois que nécessaire. C'est seulement à la toute fin qu'intervient le recyclage. En bref, avec l'économie circulaire, on cherche à exploiter au maximum chaque produit, chaque composant dont il est constitué et même la matière dont il est fait.
Merci Julie, c'est plus clair comme ça. Alors finalement, l'économie circulaire, ça a l'air d'être un modèle qui est intéressant non seulement pour réduire nos problèmes de déchets, mais aussi ça permet de soutenir notre mode de vie, c'est ça?
C'est vrai, mais en partie seulement, car l'économie circulaire passe par la mise en place d'un modèle plus sobre et plus efficace. Pour ce qui est de l'efficacité, nous avons déjà fait nos preuves, mais pour ce qui est de la sobriété, c'est une autre histoire.
Alors attends, tu me perds un peu là, qu'est-ce que tu entends par sobriété?
Alors la sobriété, ça peut révéler de l'aspect technique, pour une maison sobre énergétiquement par exemple, mais ça concerne aussi finalement notre comportement. Le but, c'est de dissocier la croissance de la consommation de matière. Si on parle de consommation, c'est supprimer tout ce qui est superflu, toutes les choses dont on n'a pas vraiment besoin, et pour les choses que l'on achète, faire en sorte qu'elles soient toujours le plus durable possible.
Donc en fait, si je résume, la sobriété, c'est consommer moins, mais mieux, c'est ça?
Tout à fait. Et ça vaut pour la consommation, mais ça vaut aussi pour la conception ou la production des produits.
Je suis pas sûre que tout le monde soit prêt à ça, en fait. Ça veut dire renoncer quand même à beaucoup de choses, non?
Tu n'as pas tort. La sobriété est en rupture totale avec la société de consommation actuelle. C'est un vrai changement d'habitude, qu'il soit individuel ou collectif. Pourtant, c'est l'un des scénarios les plus prometteurs quand on pense le monde de demain. D'ailleurs, si jamais tu veux en savoir plus sur la sobriété, n'hésite pas à consulter le dictionnaire d'agroécologie disponible en ligne. On mettra le lien en description de cette émission. La définition de la sobriété appliquée à l'agroécologie devrait y être bientôt.
Merci beaucoup pour cette information. Mais bon, pour revenir au sujet, avec le progrès technologique, on devrait pouvoir consommer normalement, en fait. Parce que vous nous avez dit que si on rend circulaire, les déchets deviennent des ressources. Alors, on n'a pas besoin de réduire notre consommation.
C'est vrai, le progrès technique, il est à prendre en compte. Parce que c'est important d'innover, c'est important de développer des technologies plus efficaces. Mais ça va aussi de pair avec une plus grande sobriété. On ne peut pas attendre que la technologie nous sauve.
D'accord, donc en fait, le raisonnement sur l'économie circulaire, il va de pair avec un raisonnement sur la sobriété. Mais Amandine, Constance, Julie, l'économie circulaire, comme vous me la décrivez, ça suppose qu'on arrive à faire coopérer un très grand nombre d'acteurs.
Tout à fait. L'économie circulaire, elle intègre à la fois les acteurs économiques, privés comme publics, mais aussi les consommateurs. Tout le monde a un rôle à jouer. Les acteurs économiques, d'abord, ils se doivent de mettre en place 4 des 7 piliers de l'économie circulaire. Donc l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, et enfin l'économie de la fonctionnalité.
Mais alors concrètement, il consiste en quoi ces 4 piliers qui concernent les acteurs économiques?
Parlons d'abord du premier pilier, c'est-à-dire l'approvisionnement durable. Le but est que les entreprises s'approvisionnent de manière efficace en limitant les pertes et l'impact sur l'environnement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'éco-conception, c'est-à-dire penser la conception d'un produit en tenant compte de son cycle de vie, toujours pour minimiser l'impact environnemental.
Ah donc en fait, l'éco-conception... C'est par exemple, moi je sais qu'à côté de chez moi, dans les supermarchés, ils ont remplacé les sacs en plastique par des sacs en bioplastique faits à partir d'amidon de maïs. C'est de l'éco-conception ça?
Attention, car ce genre d'initiatives tiennent plus souvent du greenwashing que de l'éco-conception. Les entreprises qui utilisent ce genre de matériaux revendiquent l'aspect biodégradable. Or, dans la pratique, on se rend bien compte que ces matériaux ne sont dégradables que dans des conditions bien spécifiques de compostage industriel. Par contre, ils ne sont pas biodégradables dans la nature ou dans un compost familial au fond du jardin. C'est le cas de ton sac à légumes du supermarché. Eh bien, même s'il en a l'air, il n'est pas toujours plus vertueux que son cousin en pétrole.
Mais donc l'éco-conception, est-ce que ce serait des mensonges, des bobards encore, des entreprises pour nous vendre plus de produits ?
Non, pas toujours. Mais pour ça, faut vraiment repenser les produits. T'as peut-être déjà entendu parler du Fairphone ?
Non, qu'est-ce que c'est ?
C'est un téléphone portable qui est conçu de sorte à être le plus équitable, social et écologique possible. En fait, il est complètement démontable par l'utilisateur et toutes les pièces sont disponibles sur Internet. Tu peux le réparer toi-même pour allonger sa durée de vie, comme le ferait un mécano avec sa moto.
Mais alors du coup, pour mon emballage, comment je fais ?
Il y a des solutions, elles existent. Et d'ailleurs, la réponse, elle se trouve en partie dans ce témoignage. On écoute.
L'arrêt du gaspillage permettrait très certainement de diminuer considérablement la quantité de déchets.
Il y a les emballages qui sont absolument nécessaires. On pense par exemple à ce qui contient du vin ou de l'eau, mais qui n'est pas obligé d'être dans le matériau qui, lui, doit se jeter.
Il y a tout le problème qui se repose maintenant des emballages récupérables. Ça, il faudra absolument qu'on se repenche sur ce domaine. Sur la consigne, revenir à un certain nombre d'emballages consignés.
Alors, à ton avis, Benjamin, il date de quand cet extrait ?
Remettre la consigne au goût du jour, du néo-rétro, ça ressemble bien à une idée bobo écolo du 21e siècle, ça, je me trompe ?
Eh oui, tu te trompes. En fait, nous venons d'écouter un témoignage de Claude Guillemin, du Bureau de recherche géologique et minière. Et cette interview, elle date de 1974. En fait, déjà à cette époque, alors que les emballages en plastique à usage unique, ils étaient en plein boom, on parlait déjà du problème qu'allaient représenter les déchets et d'un indispensable retour à la consigne.
Mais du coup, la consigne, c'est pas un truc un peu old-fashioned ? On a quand même arrêté la consigne en France dans les années 1960.
Oui, mais pas partout. Vous allez dire que je parle beaucoup de l'Alsace. Mais là-bas, la consigne, elle est encore utilisée pour certains produits. Et dans d'autres pays, c'est le cas aussi, en Allemagne ou dans les pays nordiques, par exemple.
Ah, dis donc, Constance et l'Alsace. Mais bon, je dois reconnaître que sur le coup, c'est quand même bon, les Alsaciens. Hein. Et encore, au lieu de parler des bouteilles consignées, on pourrait parler du vin qui bête dedans. Moi, hier, j'ai bu un petit Gewürztraminer.
Benjamin, tu te disperses. Revenons à l'éco-conception, si tu veux bien. Les entreprises repensent vraiment leur mode de production. En revenant à la consigne, par exemple, le bilan environnemental serait super positif. Une étude réalisée en Alsace, justement, compare le cycle de vie de bouteilles en verre consignées à celui d'une bouteille en verre à usage unique. Les indicateurs environnementaux sont sans appel. La bouteille à usage unique consomme 4 fois plus d'énergie et contribuerait 5 fois plus au réchauffement climatique avec l'émission de gaz à effet de serre.
Ah oui, effectivement, surtout sur un grand nombre de bouteilles, ça commence vraiment à compter. En fait, le problème, c'est le jetable. Avoir des objets à usage unique, ça ne fait pas bon ménage avec l'environnement.
Tu as tout compris, Benjamin. Par contre, la consigne est efficace quand elle est mise en place dans le but de réutiliser les bouteilles. C'est le débat qu'a provoqué la loi anti-gaspillage de 2020 qui voulait instaurer la consigne pour les bouteilles en plastique dans le but de les recycler. Sauf que là encore, on se trompe de combat. On déculpabilise le consommateur.
D'accord, donc réutiliser, pas recycler. Et donc, si on revient aux 4 piliers de l'économie circulaire, on a parlé d'approvisionnement durable, d'éco-conception, et c'est quoi les deux autres ?
Alors le troisième, c'est l'écologie industrielle et territoriale. En gros, le but, c'est de favoriser les échanges de flux entre les entreprises et de mutualiser les besoins des acteurs qui sont proches géographiquement. C'est de la mise en commun, en fait.
Et le dernier, c'était quelque chose avec la fonctionnalité, quelque chose comme ça ?
Exactement. En fait, le quatrième, c'est l'économie de fonctionnalité. Elle favorise l'usage des biens plutôt que leur possession. C'est pour ça qu'il faudrait que les entreprises, elles vendent plutôt des services liés aux produits plutôt que des produits eux-mêmes. Est-ce que tu as déjà utilisé un Vélib, Benjamin ?
Ah bah bien sûr, tu connais mon amour pour le vélo, hein, bien sûr que ça m'est déjà arrivé.
Et bah le Vélib, c'est un exemple parfait de l'économie de fonctionnalité. Au lieu de posséder ton propre vélo, tu achètes un service, c'est-à-dire la location du vélo. Comme ça, il y a moins de vélos qui dorment dans les garages ou qui partent à la décharge.
Donc pour résumer, sur les 7 piliers de l'économie circulaire, il y en a 4 qui concernent les acteurs économiques, et c'est l'approvisionnement durable, l'éco-conception, l'économie territoriale et l'économie de fonctionnalité. D'ailleurs, pour tous ces piliers, l'État joue aussi un rôle clé en contraignant les entreprises par des lois, des taxes ou autres. Et les consommateurs dans tout ça ?
J'allais t'en parler. Les consommateurs sont les acteurs clés, car leur comportement détermine la demande et donc l'offre. Ils sont garants des deux autres piliers de l'économie circulaire. D'abord, la consommation responsable, c'est-à-dire les achats durables, favoriser une consommation collaborative, mais aussi une utilisation responsable. Le deuxième pilier, c'est celui de l'allongement de la durée d'usage. Vous vous souvenez des multiples boucles ? On les retrouve ici avec le réemploi, la réparation et la réutilisation.
Et donc moi, en tant que consommateur, si je veux consommer plus durable, je peux faire quoi ?
Alors tu peux commencer par acheter seulement ce dont tu as besoin. Tu te souviens, la sobriété. Et ce que tu achètes, il faut t'assurer que c'est de la bonne qualité et que ça puisse durer dans le temps. Donc, pour ce qui est de l'alimentaire, tu pourrais aussi te mettre au zéro déchet, par exemple. Réduire tes emballages en achetant en vrac. Éviter les emballages jetables à usage unique. D'ailleurs, pour le repas de ce soir, j'ai vu que certains restaurateurs de la région toulousaine proposent leurs plats à emporter dans des boîtes en verre consignées. C'est une solution aux emballages jetables, mise en place par Emboîte le plat. C'est sympa comme idée, non ?
Ah oui, super comme idée. Mais attendez, on a parlé de 7 piliers de l'économie circulaire, 4 pour les acteurs économiques, 2 pour les consommateurs, il en manque un, non ?
T'as pas deviné ? Le 7e pilier, c'est justement le recyclage, qui fait partie du domaine de la gestion des déchets.
Ah bah oui, tiens, j'allais presque oublier le recyclage.
C'est bientôt la fin de l'émission. Benjamin, tu voudrais pas nous faire un petit récap pour nos auditeurs ?
Mais avec plaisir. Alors, comme nous l'avons vu en première partie de notre émission, nous parlons beaucoup du recyclage à tort et à travers. Pourtant, celui-ci n'a pas un impact neutre sur l'environnement. C'est pourquoi il ne devrait pas être envisagé comme seule et unique solution au problème des déchets. Le recyclage, il devrait être envisagé comme dernier recours lorsque les produits, qu'ils soient de ressources renouvelables ou non, ont été utilisés à leur maximum, tout comme leurs composants et les matières dont ils sont constitués. Les 7 piliers de l'économie circulaire concernent les consommateurs, mais aussi les entreprises, et pas seulement la gestion des déchets. Dans la grande boucle de l'économie circulaire, tous les acteurs ont un rôle à jouer.
Déjà la fin de notre émission ?
Eh bien oui, vous venez d'écouter la 6e et dernière émission de cette année dans Agro J'écoute. Vous n'avez pas pu écouter les épisodes précédents ? Ou vous voulez réécouter cette émission ? Pas de panique ! Rendez-vous sur vos plateformes de podcast, telles que Spotify, Deezer ou Mixcloud, pour écouter toutes les émissions d'Agro J'écoute. Ce fut un grand plaisir pour nous de partager un peu de ce qui nous anime et nous espérons que cela vous aura plu autant qu'à nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le recyclage ou sur l'économie circulaire, n'hésitez pas à consulter les références en description du podcast. Nous remercions très chaleureusement Sophie Yvon qui s'est démenée pour que cette série ait pu avoir lieu malgré toutes les contraintes que le confinement actuel nous impose. Nous remercions également la radio Campus FM. De la part de tous les étudiants, un grand merci. Cette émission a été réalisée en partenariat avec l'École d'ingénieurs de Purpan, l'Université fédérale de Toulouse et la région Occitanie sur Campus FM. C'était Agro J'écoute, une émission des étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan.
C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simone Giuliano. Un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse. I'm gonna say it one more time.